In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. C'est la deuxième fois que l'émission a lieu un 1er janvier. Je ne peux m'empêcher de repenser avec émotion à la première, c'était le 1er janvier 2020. Nous étions dans la bibliothèque d'un endroit mythique, le Lénine Café sur l'île de Chalonne. C'était la maîtresse des lieux, Martine Thouet, qui nous accueillait, comme à son habitude, chaleureusement. Elle est décédée brutalement quelques mois plus tard, et le lieu n'est plus. Et de fil en aiguille, évoquer le Lénine Café m'amène à parler d'un auteur magnifique, Thierry Froger, qui a fait du Lénine Café une des pierres angulaires de tous ses romans. Je le salue chaleureusement par la voix des ondes, et comme beaucoup, j'attends impatiemment son prochain roman. Revenons à 2025. Pour ce premier jour de l'année, je vous propose une émission spéciale puisque j'y ai mis des bulles au programme. Et ils sont trois dans le studio pour parler de leur métier et de leur actualité. Bonjour Gérard Berthelot.
Bonjour.
Bonjour Éric Jussézac.
Bonjour.
Bonjour M. Le Rouge.
Voilà.
On ne va pas mystifier les auditeurs, cette émission est bien évidemment enregistrée. Nous ne sommes donc pas en possession d'une information importante. Le résultat du vote du budget du Conseil régional. Vous avez presque tous les trois un point commun. Vous faites du réel votre matière à dessiner, sauf finalement Éric Jussézac qui lui est à 99% dans la fiction. Le 1% restant, c'est les papes. Avec vous, Mathéo Le Rouge, c'est encore le réel qui vous sert à dessiner. La BD, ça a commencé comment ?
La BD, ça a commencé par des lectures. Ça a commencé par du recopiage. Ça s'est perdu pendant un temps. Ça s'est retrouvé à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte avec la redécouverte de la bande dessinée alternative au tournant des années 2000. Et qui a nourri de nouvelles envies de dessin, d'un dessin un peu sorti de l'enfance et qui se dirigeait vers le monde et ses secrets, ses mystères. Et du coup, moi, j'ai abordé le dessin par le croquis, par le dessin de nature. Et du coup, c'est devenu un outil de rencontre et de compréhension.
Ça a quand même commencé tôt, la BD. Alors, les albums d'enfance, c'était quoi ?
Oh ben sans suspense, c'était les Astérix, beaucoup de Franquin aussi. Voilà, toute la franco-belge, quoi.
Est-ce que cette mémoire que vous avez de ces dessins-là, il y a encore des traces dans votre travail d'aujourd'hui ? Est-ce que ça vous influence aujourd'hui, cette forme de la BD franco-belge, qui est vraiment très particulière ?
Oui, dans son côté burlesque, qui tourne en dérision, cette espèce d'élan humoristique, ouais, qui peut parfois servir à faire un pas de côté par rapport au réel ou au sujet d'actualité, pour les traiter sous un angle complémentaire, en fait.
L'ironie de Franquin, par exemple.
Par exemple, ouais. Les idées noires.
Tout ouais. Ça. mais aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le domaine. Alors, vous êtes dans. J'espère ne pas dire un gros mot. Vous êtes dans l'illustration et dans le domaine du reportage.
Oui, non, il n'y a pas de gros mots.
Bon.
Moi, je me définirais au sens large comme un dessinateur parce que du coup, ça simplifie beaucoup ouais. De choses. Ça autorise de faire tout ça, en fait. Et c'est vrai que je travaille au contact de journalistes depuis quelques années, mais un peu par hasard. Mais j'ai saisi ce hasard avec joie et plaisir. Et du coup, j'apprends qu'est-ce que ça signifie de travailler au contact de ces gens-là. J'apprends de leur méthode, j'apprends de leur savoir et du contenu qu'ils traitent pour toujours continuer à pratiquer mon dessin de manière curieuse et ouverte envers les autres et envers le monde. Quoi.
Si je dis que vous travaillez plutôt à la commande, c'est-à-dire qu'on vous contacte pour travailler sur un projet, est-ce que c'est la bonne manière de dire les choses ?
Oui. C'est vrai que par défaut, j'ai longtemps tourné autour de la fiction sans jamais arriver à m'y atteler vraiment. J'ai une collection de projets avortés ou échoués ou sans suite, quoi, qui m'ont un peu laissé les bras ballants. Et du coup, tout ce qui me restait, c'était cette pratique du dessin. Pour m'actualiser, m'inscrire dans un monde, dans une quotidienneté. Et du coup, cette pratique-là du dessin, à un moment, par une conjonction de planètes qui m'échappe un peu, a fini par être repérée, tombée dans l'œil de quelqu'un qui m'a proposé un premier sujet, qui m'en a amené un autre et qui m'a mis sur la voie d'une chaîne de collaboration que je n'ai pas provoquée moi-même, mais dans laquelle je continue de m'inscrire au fur et à mesure.
Et qui s'inscrit dans une lignée, pour être dans le concret. On a vu vos travaux dans la revue Topo.
Tout d'abord dans Topo, ouais.
Ouais.
Puis la revue dessinée.
Alors moi, j'ai découvert que Topo, en fait, c'était le raccourci de Topolino. En fait, je trouve que le nom est génial, quoi, pour une revue qui est plutôt une revue qui s'adresse à des ados.
Oui, c'est la bande dessinée, la revue dessinée qui a monté ça au bout de quasiment une dizaine d'années d'expérience, je crois, et qui s'est rendu compte que en fait leur revue pouvait intéresser de par les sujets qu'elle traitait un public plus jeune, mais qu'il fallait retravailler le discours pour se mettre à la hauteur d'un public plus adolescent ou plus jeune, quoi. Et donc du coup ils ont monté ça par la suite, mais avec la même exigence et la même ligne éditoriale.
On reconnaît les lignes éditoriales, hein, c'est un par... Enfin, quand on lit les deux, à un moment donné, on ne sait plus laquelle on lit en réalité. Dans Topo, donc vous avez dessiné pour un reportage sur les Black Blocs. Ça donne déjà on commence à comprendre dans quelle veine vous travaillez, en tout cas dans vos... Peut-être pas dans les choix, mais peut-être quand même dans les choix, vers quoi vous allez. Parce que après, dans la revue dessinée, il y a eu un numéro spécial qui était consacré à la vente des armes et avec un sujet sur la France que vous avez illustré. Là, vous avez travaillé avec donc un journaliste.
Une journaliste.
Audrey
Lebel.
Ouais, et qui... mais comment on appréhende, par exemple, parce qu'il faut décortiquer un peu tout cet univers-là, l'univers des armes, ce qui n'est pas simple. Vous avez dessiné des armes, vous avez schématisé, représenté la puissance de la vente des armes, par exemple, combien ça représente, avec des petits dessins que je trouve vachement intéressants. Comment on travaille pour faire en sorte que le dessin que l'on produit soit cohérent avec le propos de la journaliste, en l'occurrence.
Alors, les deux exemples sont assez intéressants parce qu'ils, ça a été deux approches un petit peu différentes. La première chose, c'est que déjà ces sujets, comme les a proposés, que je les ai acceptés, c'était aussi parce qu'ils étaient en raccord avec une certaine idée que je me faisais de la bande dessinée de reportage du journaliste, qui était tout à fait raccord avec celle des revues. C'était que l'objectivité journalistique n'existe pas et que m'inscrire dans une forme de journalisme, qui, qui expose ouvertement une thèse ou ses idées me paraissait plus cohérent ou plus raccord avec ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour ce qui est de la méthodologie, du coup, les deux sujets m'ont amené à travailler de manière assez différente. Pour les Black Blocs, la période où on m'a proposé ça, c'était juste après la loi travail, où il y a eu une forte mobilisation, où comme bon nombre de citoyens, je me suis retrouvé dans la rue, où j'ai senti l'ambiance des manifestations changer. À l'époque, j'habitais en Île-de-France. Je n'ai pas fait toutes les manifestations, mais j'en ai fait peut-être une sur deux ou une sur trois. Et donc, j'ai vu ces changements commencer à opérer. Je m'y suis intéressé. J'ai commencé à me documenter sur les médias alternatifs pour essayer de comprendre ce qui se passait tant au niveau politique institutionnel que politique citoyenne dans la rue, quoi. Et à ce moment-là, le sujet Black Bloc est arrivé avec un journaliste qui avait pénétré le milieu par l'intérieur, qui connaissait des gens, qui avait donc des témoignages de première main. Mais il fallait quand même que moi je puisse me saisir de ça. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur l'expérience que j'avais pu vivre moi, en tant que simple manifestant, pour retranscrire ces pages et les ambiances. Et j'ai essayé, du coup, je m'étais fixé comme ligne de conduite. Un, de n'écouter que du punk enragé pendant la réalisation de ces pages. Et deux, de ne jamais reproduire une photo telle quelle. C'est-à-dire que je me suis basé sur mes propres souvenirs et de certaines... d'une certaine forme de documentation photo, mais à titre uniquement documentaire. Je ne reproduisais pas une image telle quelle. Je prenais un élément, j'avais besoin de savoir comment était un masque, etc. Donc ça, c'était pour une première méthode. Et la deuxième, pour le sujet des jambes, ça a été très, très différent. C'était un petit peu frustrant quelque part aussi. C'est que là, j'ai pu travailler qu'à partir de data. Et d'ailleurs, ça a été aussi la démarche de la journaliste, c'est que elle n'a pu traiter que quasiment que des infos qui traînaient sur Internet. J'ai découvert du coup d'ailleurs que tout un pan du journalisme ne consiste plus qu'à, entre guillemets, qu'à ça, mais sans dénigrer ce travail-là, parce que c'est quand même un gros travail de recoupe et d'analyse de données. Et là, du coup, j'ai dû faire la même chose pour constituer mon fonds de documentation. J'ai dû écumer Internet, Google Earth, enfin des images satellites, parce que là, il est, dans le sujet que je traitais avec la journaliste, il était question de camps d'entraînement sur le sol français, mais qui du coup sont classifiés secret défense, dont on a très peu de photos. Et donc du coup, j'avais d'une part sa documentation écrite, qu'il fallait donc que j'extrapole. Mais parfois, j'avais aussi certains besoins de documentation visuelle. Et donc là, du coup, ça a été assez, un travail assez laborieux de collectage de données sur Internet pour arriver ensuite à transcender ça par le dessin. Et donc, du coup, à parfois aussi opter pour des représentations plus schématiques. Vous faisiez référence tout à l'heure. Et donc, du coup, c'était un autre rapport au dessin, un autre rapport à la narration. Voilà.
Alors, travail qu'on retrouve, qui me semble qu'on retrouve dans l'album qui vient de paraître, qui est paru au mois de septembre, La Fabrique de News de...
Pierre Millet-Bellando
et vous, au dessin. La Fabrique de News, c'est en fait, c'est l'histoire de Pierre Millet-Bellando. De sa formation à l'IEP de Lille, à l'école de journalisme de Lille, jusqu'à la gloire, pratiquement la gloire. Vous avez alors comment dans un sujet comme ça qui a été traité, dont on parle beaucoup, Si on regarde Arrêt sur image de Schneiderman, si on lit Acrimède, si même on a lu ce merveilleux petit livre sur la télévision de Pierre Bourdieu, que je recommande à tout le monde parce que c'est la pierre angulaire de la connaissance des médias. C'est des choses qu'on connaît, mais là, on est dans une histoire au long cours. C'est vraiment, c'est presque un roman, c'est un roman graphique. Hein, ça fait plus de 160 pages. Comment vous avez appréhendé la représentation de l'univers des médias pour que ça fasse sens en réalité ? Parce qu'il faut que ça fasse sens.
Eh bien, je me suis beaucoup appuyé sur les connaissances de Pierre, qui donc du coup était et toujours d'ailleurs journaliste de profession, qui m'a aiguillé. Il y en a eu tout au long cours de la réalisation de l'album, on a eu des échanges assez réguliers sur quel type de matériel, quel type de caméra, quel type de dispositif, quel type de propos. Donc ça a été un échange et un dialogue assez régulier pour arriver à traiter tout ça, d'autant plus que je n'ai pas la télé depuis au moins une quinzaine d'années. Donc il a fallu, c'est assez paradoxal de parler d'un média que je ne fréquente plus au quotidien, que je continue à avoir dans ma ligne de mire, puisque la critique média est quand même quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'ai commencé à arrêter d'avoir la télé au moment où je commençais à m'intéresser à la critique média. Et donc, du coup, oui, tout ça s'est construit sur la base du dialogue avec Pierre, mais tout en sachant qu'il avait quand même pas mal débroussaillé le terrain et qu'il avait lui-même écrit tout l'arc narratif de l'album. Et étant quelqu'un qui vient de l'image, il avait aussi tout un vocabulaire qui était commun avec celui de la bande dessinée, sachant qu'il y avait quand même quelques petites distinctions, notamment liées au fait qu'en bande dessinée, on n'a pas la notion de temps et de mouvement qu'on peut avoir dans la vidéo. Et donc là, il a fallu qu'on discute et qu'on réajuste et qu'on adopte un vocabulaire différent.
Et là, Franquin peut être utile pour faire les petites boucles derrière le scooter qui roule. Ça devient utile à ce moment-là, ces connaissances-là.
Exactement. Et puis, étant donné que la volonté de Pierre était d'aussi opter pour un ton humoristique ou légèrement cynique.
Ironique.
Voilà. Hein, oui. Beaucoup d'autodérision.
Oui.
Et ben l'expérience de lecture de Franquin était précieuse. Ouais.
Mmh. Avec l'ombre d'Albert Londres qui plane en permanence et qui commente, qui est en surplomb un peu, et qui commente un peu toutes les actions de ce jeune journaliste. Merci. C'était The Loire Valley Calypso avec Bialetica qui chantait Salvador. Vous écoutez Entre les Pages sur Radio G, fréquence 101.5. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée aux bulles. Après avoir entendu M. Le Rouge, qui vient de publier La Fabrique de News chez Steinkiss, écoutons maintenant Gérard Berthelot. Je me tourne vers Gérard Berthelot, parce que Gérard, vous êtes vous aussi dans la représentation du réel.
Oui, en partie, oui, oui.
Oui. Pourquoi en partie ?
Oh, bah parce que dans les ouvrages que j'ai pu faire, bon, il y en a certains, c'est des reportages, oui, bien sûr, de la bande dessinée. À propos d'Albert Londres, j'ai fait 4 albums sur les reportages d'Albert Londres. Et bah, je dis en partie parce que j'ai fait aussi des livres d'humour, des livres de thèmes. Mmh. Moi, ce qui me passionne, c'est le dessin.
Oui.
Quelle que soit la représentation, c'est le dessin. Mmh. Dessiner du comique, du réel, du reportage, tout ça, ça me passionne.
Mmh. C'est venu quand le dessin ?
Oh, le dessin, c'est venu il y a très très longtemps. Moi, ouais. Je suis un vieux de la vieille, donc...
Bah oui.
et donc, là, si je raconte ma jeunesse, j'ai appris à lire avec les albums Tintin. Mon grand-père, à chaque fois que j'allais en vacances, achetait un album... Et d'ailleurs, il me le lisait, je devais le lire avec lui. Et puis, voilà. Et donc, ça m'a bercé ma prime jeunesse. Je suis toujours resté un passionné de la bande dessinée, oui.
On voit déjà le saut générationnel. Pour vous, la référence à Tintin. Pour Le Rouge, c'est Franquin. Donc, il y a quand même une petite progression.
Ouais, bah oui, mais alors moi, au niveau de la bande dessinée, c'est bien sûr Hergé. Mais après, c'est le journal Tintin avec des dessinateurs comme Herman, ah. Où là, je lisais Comanche et puis Bernard Prince. Ouais, je dévorais ça, oui, ouais. C'était passionnant pour moi. Mon deuxième choc, c'est plutôt le livre en lui-même. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans dans une imprimerie. Et là, pour moi, c'était une révélation. Fabriquer un livre, c'est extraordinaire.
Et donc, le livre, comme vous venez de le dire à l'instant, le livre qui est important, est-ce que lire des livres, est-ce qu'il y a eu l'envie de représenter en images les livres que vous avez lus ?
Oui, mais pas seulement. Bien sûr, on se constitue dans la tête... toute une panoplie d'images, parce que quand on lit, on imagine. Et bon, ce n'est pas de moi, mais dans le mot « image », il y a le mot « magie mm-hmm. ». Et donc, là, on peut tout se permettre au niveau de la représentation.
Et apprécier, par exemple, le travail de Herman, je prends Herman, puisque vous venez de le citer, il n'y a pas un petit côté dissuasif en se disant « j'y arriverai jamais ».
Ah bah ça, non. Là, il ne faut pas prétendre égaler Herman, non, certainement pas. Mais comme beaucoup d'autres dessinateurs, des talents, il y en a énormément. Il y en a partout, et même encore actuellement.
Il y en a 3 déjà autour de la table, là, ce matin.
Mais non, il y a vraiment des très grands dessinateurs. Je suis passionné par les grands dessinateurs, également par les peintres. J'aime beaucoup la peinture, mais... Oui, il y a des dessinateurs comme Sempé. Je suis admiratif du travail de Sempé. Pour moi, c'est l'un des plus grands poètes de tous les temps. Il représente par le dessin une poésie extraordinaire.
Alors, dans certains des travaux que vous avez faits, dans les derniers en date, en fait, hein, il y a cette contribution à la série des Fouteux. À laquelle vous avez participé. Vous avez participé au tome 2, qui s'appelle Les Fouteux du Dimanche, une bande de copains. Là, il y a du vécu là-dedans.
Il y a du vécu. Moi, je n'ai pas trop connu ça, mais les scénaristes, oui. Les scénaristes, oui, il y a du vécu, certainement.
Gérard Berthelot a commencé sa carrière footballistique à l'ASA Avrier. Donc, il y a du vécu.
Oui, bah, bien sûr, j'ai connu ça, oui, les vestiaires un petit peu pourris, les fuites d'eau, les terrains impraticables, oui, j'ai connu, oui. Les problèmes de déplacement, oui, bien sûr.
Et le 11e homme qui manque toujours.
Ah bah oui, même des fois le 10e aussi.
Alors ça, je trouve ça très savoureux. Enfin, l'album est très savoureux parce que il relate, il parle du réel. Et vraiment, et d'ailleurs avec beaucoup de, comment dire, de générosité. Il y a aucun, mépris dans tout ce, dans tous ces clubs, ces petits clubs dans des petits villages. Bah qui, c'est une activité. Alors c'est l'activité des hommes là que vous relatez. Hein, c'est
oui.
Avec tout.
Oui, c'est des petites anecdotes.
Oui.
Alors pour la petite histoire. Là, toutes les brèves racontées sont issues de moments réels.
Oui, d'expériences.
Voilà, d'expériences, oui, qui ont été rapportées dans de différents clubs. Oui. Mm-hmm.
Vous racontez, dans cet album-là particulièrement, il faut couvrir tout le spectre. Donc, il y a le terrain pourri, le ballon pourri, les vestiaires pourris. Il y a aussi les relations avec les épouses qui ne sont pas forcément... Alors, je oui. pense que systématiquement, elles sont mauvaises. Hein. Enfin, ça ne va jamais. Hein.
Non, ça ne va jamais. Oui.
Hein, c'est la troisième mi-temps qui dure vraiment quatre mi-temps même d'ailleurs, on
oui,
peut
oui,
supposer.
Oui, oui, oui.
Et qui n'est
il y a
pas
des débordements. Oui,
voilà.
Oui.
Et les débordements, ils ne sont pas que de l'eau. Hein. C'est,
non.
Il y a des migraines. Comment on aborde, comment on raconte ces histoires, comment vous avez procédé pour collecter toutes ces histoires et puis
alors,
après le choix des représentations.
Moi, sur cet album, je ne suis que le dessinateur.
Ah, vous êtes comme
les scénaristes, eux, c'est eux qui ont raconté l'histoire. Ils m'ont envoyé un découpage. Tout était scénarisé, notamment Olivier Petit, qui connaît très bien son travail.
Donc, le responsable des éditions
Petit
à Petit.
Oui, oui.
Hein, très bonne...
Et moi, j'étais plutôt... sur cet album-là, je ne suis que l'illustrateur.
Oui, mais un illustrateur qui sait de quoi il parle.
Oui, un petit peu, oui. Oui, j'aime bien le milieu du sport en général, oui. Entre autres.
Vous l'aimez tellement, et vous l'avez même vraiment très très bien raconté dans cet album consacré à Coppa, hein, qui est footballeur emblématique, alors un petit peu d'Angers quand même.
Un petit peu. Juste un petit peu au niveau footballistique, mais après il a vécu à Angers. Mmh. À la fin de sa carrière, quand il est revenu, il habitait Angers. Et d'ailleurs, il y a encore ses filles et sa femme qui habitent sur Angers.
Qu'est-ce qu'il y a... L'origine de l'album sur Coppa, c'est vous ou c'est une demande?
Alors, non, c'est plutôt moi, parce que... Alors, bon, après avoir travaillé en imprimerie, j'ai créé deux sociétés, Graphic Impact et puis Comme en BD, c'est la communication en BD. Et quand le stade Jean-Bouin a été rebaptisé Stade Raymond Coppa, j'avais imaginé redécorer tout le boulevard Coubertin avec la carrière de Raymond Coppa. Alors, ça avait été accepté par le club d'Angers, mais refusé par la mairie. Et donc, à partir de là, quand j'avais collecté ça, je m'étais dit, mais il y a une histoire à raconter, c'est l'histoire de ce footballeur. Et donc, c'est voilà comment est né le projet. Je l'ai proposé après à Petit, qui l'a accepté, puis voilà.
Vous êtes illustrateur, et il y a votre contribution à La Tête en Noir.
Ah oui, voilà, oui.
Oui, quand vous dites « là », c'est que c'est une aventure au long cours, là. Hein.
40 ans.
40 ans
de... 40 ans de dessin, c'est-à-dire 1800 dessins pour La Tête en Noir, y compris... l'organisation de trois festivals du Polar dans les années 80.
Alors, La Tête en Noir, pour le rappeler, on avait reçu Raphaël Guéry ici pour parler du fanzine, un fanzine, le fanzine quand même, le fanzine de référence.
Le plus vieux fanzine de France existant.
Ouais, exactement.
Voilà.
Qui est vraiment le format fanzine. Quoi. Lui, c'est vraiment le A4 plié en deux, photocopié. C'est l'école ancienne. Mais ce travail-là, dans ce fanzine-là, c'est quand même un travail très particulier parce qu'il faut trouver à chaque fois... Alors, vous avez toujours le grand dessin de couverture, le haut de couverture. Ouais. Puis après, vous illustrez les articles.
Il y a le dessin de couverture qui dépend de l'article, le thème principal du fanzine.
Ouais.
Puis après, les petits dessins, c'est des dessins que je fais comme ça... Oui, mais... En me levant le matin, j'en fais un, et puis voilà, C'est comme ça que se font...
Là, vous êtes en train de détruire toute la magie de...
Ah non, il n'y a aucune... Non, non, il n'y a aucune magie, c'est comme ça.
Oui, non, mais... sauf que les dessins, ils sont quand même en référence au livre chroniqué.
Pas toujours.
Pas toujours ?
Non, non.
Ah, c'est moi qui y mets du sens, alors ?
Oui, c'est très bien. Ça prouve que, voilà, oui, ça fonctionne aussi comme ça, oui.
Vous êtes actuellement... vous travaillez sur des projets actuellement ?
Alors actuellement, je travaille. Alors là, j'ai un livre qui vient de sortir avant-hier, qui est un reportage justement sur un médecin qui faisait des missions humanitaires dans le monde. Et je raconte 16 missions qu'il a pu faire un peu partout. Alors, c'est d'actualité, hein, bien sûr, avec ce qui se passe actuellement. Mmh. Mais c'est des... Alors, on va à Gaza, on va au Tibet, à Haïti, partout où il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des guerres aussi, le Kosovo.
Le titre de l'album ?
C'est Itinéraire au pluriel d'un doc solidaire.
C'est publié chez qui ?
Au Lisel, boîte d'édition de Épinal.
Allez, je vous propose une deuxième pause musicale.
La montagne avait paré ses couleurs, elle marchait sans bruit, et là, sous ses pieds, un ruisseau d'argent coulait sous la terre, elle quittait le sentier.
Des sons étonnants de l'Anjou, c'était John O'John qui a chanté La femme oiseau. Vous écoutez toujours Radio G, c'est l'émission Entre les pages. On va continuer cette conversation avec Eric Jussezac. Bonjour Eric.
Re-bonjour.
Re-bonjour, dit-il paisiblement. On s'était déjà rencontrés. Pour la présentation de cet album, quand même, moi je reste quand même toujours sidéré par cette couverture qui est quand même d'une puissance fantastique. Enfin, j'arrive toujours pas à déterminer la couleur de fond, mais donc de l'album Erectus. C'est la fiction.
Oui et non, parce que si on prend Dantès, c'était plutôt pareil, une forme de... Les diptyques de Dantès étaient basés sur des histoires réelles économiques. Mmh. Donc le premier, bon, on a pas mal comparé à l'affaire Kerviel, mais en réalité, on s'était basé sur l'affaire Nicholson qui avait fait chuter la banque Barings à Hong Kong il y a maintenant près plus de 20 ans. Donc voilà, après on a eu un autre diptyque sur une société française qui avait vidé des conteneurs de dépôt, enfin d'ordures dans les égouts d'Abidjan parce que la déchetterie était fermée. Donc on avait rencontré les gens qui avaient ensuite été dépollués le site et qui ont failli se faire massacrer parce que lorsque la population locale, suite à la quarantaine de morts qu'il y avait eu, ainsi que les 300 personnes, enfants, femmes confondues, avaient eu des brûlures chimiques dues au dégagement du sol, ils avaient failli se faire lyncher parce que les gens croyaient qu'on revenait leur mettre des ordures dans les égouts d'Abidjan. Donc voilà, chaque Dantès, sous couvert de fiction, était basé sur une histoire vraie, oui.
Quand je dis fiction, c'est effectivement il y a une part de réel, il y a du réel, bien sûr, mais faut construire une histoire autour de ça. Comment sur des sujets tels que celui que vous évoquez, on fait le pas d'aller un petit peu au-delà du reportage pour que le lecteur en fait se plonge dans cette histoire-là?
Alors ça, c'est plutôt le travail des scénaristes. Lorsque j'ai fait des scénarios pour d'autres dessinateurs, j'étais effectivement dans la fiction pure. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Emile Rouge quand il disait que de toute façon, à partir du moment où vous êtes journaliste, vous choisissez une focale, une approche du sujet que vous avez, qui est purement subjective. En bande dessinée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours un support contemporain, mais c'est la focale, l'intérêt que vous allez accorder à vos personnages et le type de narration que vous allez choisir, le type de dessin que vous allez choisir, qui vont créer l'unité de l'album.
Alors, quand vous êtes... Vous pouvez être à deux endroits, c'est-à-dire travailler sur votre... Alors, même à trois endroits, d'ailleurs. Travailler sur vos propres projets ou scénariser. Et puis, travailler à la commande, pourquoi pas à la commande, comme le cas pour Erectus, où on vous sollicite pour adapter un roman.
Oui, là, c'était un exercice nouveau pour moi, qui était d'adapter un roman de 550 pages à condenser dans un album de 100 planches de bande dessinée. Donc, encore une fois, on en revient à ce que disaient Gérard et M, le fait que la documentation est nécessaire, quoi qu'il arrive. Donc, dans le cas de M, effectivement, il parlait de tous les outils auxquels il recourt. Et pour Erectus, sachant que l'intrigue se passe aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique du Sud qu'en Europe, et ensuite on va rentrer dans, mettons, les uniformes des forces spéciales sud-africaines, françaises et autres, ça nécessite un travail de documentation énorme, oui.
Erectus, c'est une trilogie, il me semble.
C'est une trilogie de romans de Xavier Muller, oui, tout à fait.
Et là, c'est le volume 1.
Oui.
Est-ce qu'il y aura un volume 2 et un volume 3?
Non.
Bon, voilà, l'affaire est réglée.
Oui, non, parce que l'affaire s'est passée avec Phileas. Et, bon, j'ai appris que depuis, il y avait des mouvements chez Phileas, puisque Daniel Kretinsky, qui a racheté Editis, dont fait partie Phileas, est en train d'assainir la place, si on peut dire poliment.
Oh là, ça c'est, ouais, c'est vraiment du très poliment, quoi.
Très poliment.
Ouais. Là, il y a un sujet pour M. Le Rouge, là, je pense, le monde éditorial.
Eh bien, écoutez, je prends. Ça a déjà été pas mal débroussaillé par le rapport Racine en 2020.
Oui.
Si on s'attaque au sujet de la précarité des auteurs de bande dessinée ou des artistes, et l'actualité nous donnera raison, je pense qu'on peut y consacrer une encyclopédie.
Parce que là, vous venez de citer le nom de Kretinsky. Quel l'équivalent de Bolloré? Enfin, on est dans...
Lorsque j'ai signé, j'ai pardon de vous couper, mais lorsque j'ai signé, effectivement, Editis appartenait à Bolloré.
Oui.
Donc, Editis, c'est 20% du marché de la littérature française. Derrière cela, Bolloré rachète 40% du marché de la littérature française. Donc, il est dans une situation de monopole, ce qui fait qu'il est obligé de céder Editis à Kretinsky. Donc voilà, on s'est retrouvé avec, un nouveau patron, finalement, qu'on n'a jamais rencontré. Mais depuis, j'ai appris que Bolloré était en train de racheter Delcourt aussi. Donc,
C'est terrible. Les
auteurs s'appauvrissent, mais le médium de la BD intéresse de plus en plus les grandes fortunes.
Il y a du business.
C'est paradoxal.
Il y a du business. Alors, vous l'avez dit à plusieurs endroits, Erectus, c'était quand même un travail de plus d'un an et demi, quand même. Ça veut dire que ça a mobilisé toute votre temps. Vous n'avez pu faire que ça pendant un an et demi.
Oui, tout à fait. Après, j'ai des petits travaux de communication que je fais à droite et à gauche dans un registre plus humoristique d'ailleurs, avec un dessin différent. Parce qu'effectivement, l'une des passions, ainsi que le soulevé Gérard ou M, c'est que de toute façon, on aime le dessin d'abord. Donc effectivement, on essaie toujours, quelque part, même si j'ai une contrainte de dessin réaliste par le type de sujet que j'aborde, mais malgré tout, on essaie toujours d'avoir un dessin qui supporte le mieux le sujet que l'on illustre. Donc voilà, quand je fais des travaux de communication, je suis dans un dessin beaucoup plus rond, humoristique ou figuratif.
Un an et demi, l'album est sorti il y a à peu près un peu plus d'un an.
Un an, il est sorti au mois de mars, le 13 mars 2024.
Donc il y a moins d'un an. Est-ce que vous êtes pas mis en vacances? Est-ce que vous êtes sur un projet? Est-ce que vous travaillez sur un projet actuellement? Voilà. En fait, tout bonnement.
comme tout, vous savez, à l'époque où je donnais quelques cours de bande dessinée à l'école Pivot à Nantes, je disais toujours à mes auteurs, enfin à mes élèves, qu'ils seraient toujours débordés de projets, pas toujours de travail. Donc, c'est un peu notre...
c'est ce que sous-entendait M. Le Rouge aussi.
Voilà, on est toujours... Donc, je suis sur deux projets actuellement, dont un qui me passionne parce que j'ai eu le privilège... d'embarquer sur un bateau de la Marine nationale pendant toute une semaine, où nous sommes passés de la pointe de Quiberon et descendus jusqu'à Toulon, en croisant, petite cerise sur le gâteau, au passage le Belém en pleine mer. Donc ça a été magnifique à voir. Et puis surtout de voir tous ces marins qui montaient des cales de ce grand navire qui devait faire 95 mètres de long, pour voir juste le Belém en pleine mer. C'était une image assez fascinante. Et donc j'avais sympathisé avec le commandant. Et on a discuté comme ça d'un projet à faire ensemble, et donc ce sera une intrigue, un genre de thriller maritime auquel s'est rajouté depuis une touche de terrorisme, parce qu'on est en plein dedans, et qui se passera donc sur un bateau d'aujourd'hui, donc voilà, dans une intrigue parfaitement contemporaine. Donc voilà, je travaille dessus. Alors, ça nécessite encore beaucoup de doc, parce que je ne m'y connais pas en super tanker, je ne m'y connais pas en frégate militaire, et je ne m'y connais pas en remorqueur. Donc voilà.
Donc il y a du travail.
Ouais.
Est-ce que c'est un projet qui est, est-ce qu'il a déjà trouvé son éditeur?
Un éditeur, à moins que le projet soit sollicité par l'éditeur, généralement on monte des projets et on les présente. Donc vous mettez 3 mois à monter un projet, et j'allais dire un peu cyniquement, il peut être refusé en 3 minutes.
Ben oui, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est... Alors, c'est parce que c'est du travail quand même, en fait. Si je résumais, vous travaillez pendant ce temps-là?
Oui, parce qu'il faut rassurer... Oui, on travaille, ben heureusement, ouais. Mais il faut qu'on rassure l'éditeur sur l'investissement qu'il va faire sur notre projet, et qui est en réalité, théoriquement, le travail entre l'auteur et l'éditeur, c'est un travail de collaboration. Oui, vous devez monter, d'abord écrire un scénario, faire un pitch, écrire un synopsis, faire des pages rédigées, le dessinateur fait les recherches de personnages, fait un storyboard, fait les planches, parfois on les met en couleur pour encore plus rassurer, et on fait les recherches de tous les personnages qui vont intervenir dans l'histoire, et vous le présentez à un éditeur. Mmh. Donc c'est au moins 2-3 mois de travail à chaque fois. Oui.
Ouais. Et ça veut dire que dans vos tiroirs, j'imagine qu'il y a une somme de projets qui ont été présentés qui n'ont pas trouvé leur éditeur.
Bon, je pense que tous les trois autour de la table, on peut répondre à un grand oui.
On les collectionner.
Vous les collectionnez. Non, mais ça, c'est effectivement toujours terrible, parce que le marché de la bande dessinée, c'est comme... Alors, J'utilise un mot très vulgaire, mais c'est comme on est dans quelques semaines, il y a le grand marché international de la bande dessinée à Angoulême, et j'utilise le vocable à terme volontairement, bien évidemment. Le marché, c'est un sacré business qui a l'air de bien fonctionner pourtant.
Ah, ce sont des centaines de millions d'euros générés chaque année, oui.
Oui. Et alors vous êtes pourtant au début de la chaîne. Enfin, sans vous, il y a rien. Enfin, si je devais résumer la réalité, la BD n'existerait pas sans vous. Mais au sommet de la chaîne alimentaire, c'est pas vous, quoi.
Mais c'est comme comme toute société économique, on va dire capitaliste, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire qui se sert le plus au passage, mais vous prenez l'agriculture, enfin vous prenez tous les domaines qui soient, c'est généralement pas celui qui produit la matière première qui est le mieux rémunéré dans l'affaire.
La part d'incertitude dans votre activité, qui est aussi votre passion, elle vous oblige à trouver des ressources alimentaires, enfin d'avoir une activité qui est plus rémunératrice. Vous êtes tous dans ce cas-là, vous avez tous une activité qui est... alors, je sais, certains, c'est de la communication. Enfin, vous en avez parlé, Eric. Vous faites de la publicité. Vous êtes obligé de passer par là.
Alors là, c'est compliqué parce que je trouve que finalement, cette insécurité, c'est un sujet que je me suis souvent posé finalement, parce que en plus, j'ai élevé mes deux enfants tout seul, donc j'étais vraiment pour le coup obligé d'avoir du travail. Je crois que c'est cette insécurité qui m'a toujours été un très grand moteur, si je peux dire. Après passer par là, je crois que c'est effectivement financièrement, c'est toujours très intéressant. Mais je crois que la première démarche, c'est quand même le fait que justement, on va devoir adapter un dessin à un type de demande particulier d'un client qui peut, je le disais, je pense que mes camarades pratiquent la même chose, demander un style différent qui serve réellement le projet. Donc je crois que c'est d'abord ce qui m'a titillé l'esprit, c'est le dessin. Mais très heureux d'avoir le chèque qui est derrière, bien sûr.
M. Le Rouge, vous êtes aussi dans ce cas de figure-là, vous avez une société, vous, hein ?
Non, enfin, je suis travailleur indépendant, mais après, oui. Ceci dit, les problématiques restent les mêmes. On est effectivement des artisans d'une industrie culturelle qui est énorme et qui brasse une quantité de publications assez extraordinaire tous les ans. Je crois que le dernier chiffre que j'avais, c'était plus de 6000 titres hors manga et rééditions par an.
Hors manga ?
La bande dessinée est passée depuis quelques années devant la publication de littérature. Mais en parallèle de ça, le statut des auteurs ne cesse de se précariser de plus en plus. Etc. Donc oui, pour ma part, j'ai effectivement aussi une partie de mon activité qui consiste à payer des factures de manière beaucoup plus pragmatique que celle de m'épanouir à travers une pratique artistique et culturelle. Mais ceci étant dit, effectivement, ça peut être aussi un moteur. Moi, j'ai du coup été amené à travailler à différents endroits de la chaîne du livre. Alors, je n'ai pas eu le loisir ou l'occasion de travailler en imprimerie directement, mais j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années pour les éditions Rackham, qui, en tant que maquettiste lettreur, donc du coup, j'ai aussi appris énormément de choses là-dedans, ce qui me permet aussi de donner des fichiers aux petits oignons à mes interlocuteurs, et en général, ils sont plutôt ravis. Mais aussi, ça c'est venu nourrir ma pratique du dessin, ma curiosité de la fabrication du livre. Et je pense que c'est aussi important à l'heure d'aujourd'hui de travailler sur ces notions d'objet du livre, parce que sans porter un jugement définitif sur la narration graphique, sur d'autres types de médias dont Internet, mais il y a l'objet du livre au milieu de tout ça, quand même, il se distingue de par bien des choses, notamment son usage et sa transmission. Et donc, moi, du moins, pour en revenir à la question et pas trop m'éparpiller, je sais que cette curiosité forcée de par une activité professionnelle autre que celle d'auteur de bande dessinée m'a aussi nourri finalement d'une manière ou d'une autre. Quoi.
Il y a effectivement pas de... Comment dire, c'est pas une compromission que de ne pas se consacrer totalement à son art. C'est simplement une nécessité. Nécessité fait loi, point barre. Mais c'est pas, ça produit aussi quand même des effets. Enfin, je l'entends. Et vous, Gérard, est-ce que vous êtes aussi dans cette situation-là, c'est-à-dire
moi, mon cas est un peu particulier. Bon, j'ai eu un accident il y a 3 ans qui m'a obligé à arrêter mes sociétés, mais bon, j'étais tout proche de la retraite, donc je me suis arrêté. Je ne suis maintenant qu'un modeste auteur et je n'ai plus ce souci de rentabiliser mes entreprises. Donc, c'est beaucoup plus simple maintenant pour moi.
Aujourd'hui, c'est plus simple. C'est plus simple et plus compliqué parce que quand vous dites que vous
c'est
avez...
plus simple de manière d'un côté financier. Physiquement, c'est un peu plus dur.
C'est un peu plus compliqué. Oui. Ça m'amène à poser une question parce que vous êtes tous les trois. Votre outil, c'est vos mains. Vous, Gérard, vous avez eu effectivement vous avez fait un AVC qui vous a obligé à repenser votre activité puisque vous avez perdu l'usage d'une main. Enfin,
oui. Enfin, j'ai. Ah, pour le moment, oui,
pour le moment, vous êtes en rééducation.
Oui, tout à fait. Hein. J'étais gaucher et bon, le dessin m'a poussé en avant. C'est vrai que ça m'a obligé. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter de dessiner, donc il faut que je trouve une solution. Et la solution est venue un matin, j'ai essayé. Bon, j'étais relativement surpris de ce que je pouvais faire de mon autre main. Et petit à petit, j'ai regagné. J'ai essayé plein de styles différents, des peintures, en faisant des portraits des personnages de Hergé, notamment, en les copiant d'une manière à la Van Gogh, un peu à des peintres du XXe siècle. Et petit à petit, j'ai retrouvé, je suis relativement satisfait maintenant de ce que je peux faire de la main droite.
On l'entend puisque vous publiez un album là. Est-ce que vous y pensez est-ce qu'on y pense quand on est à cette fragilité qu'on a, c'est-à-dire qu'un jour...
Je peux parler... Oui. Je pense que non, en aucun cas on peut imaginer ce que peut être justement. Je pense que vous êtes droitier, on perd l'usage de sa main, mais qu'est-ce qu'on devient ? Donc il y a d'abord, on peut s'estimer heureux quand on est encore vivant, c'était mon cas. Et petit à petit, il faut trouver d'autres solutions. Alors on peut devenir scénariste, il y a plein d'autres choses. J'ai inventé, pendant ma convalescence, j'ai inventé des histoires. J'ai essayé d'avoir des projets à long terme. Donc, ça donne des buts en même temps. Ça permet de se reconstruire et puis de se réadapter petit à petit. Voilà.
Je ne vous cache pas que moi, j'étais inquiet de vous inviter. J'étais pas sûr de moi en vous invitant à cette émission. Puis, je me suis dit... qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quoi. Je suis pas normal finalement. Et je vous ai rencontré au festival Angers BD. C'est là que je vous ai invité. Et puis je suis vraiment ravi de la conversation qu'on a effectivement.
Oui. Vous voyez la vie différemment, forcément. Quand vous avez des passions, mais bon, ces passions s'arrêtent et à un moment, vous dites, mais comment je peux recommencer à avoir à être passionné par le dessin, à faire des choses. Et toutes ces étapes vous poussent vers la progression, forcément.
À nouveau, comme ça a pu être dit par Eric ou par M. Le Rouge, à nouveau, finalement, ça contribue. Ce qui vous est arrivé contribue aussi à enrichir votre propre vocabulaire, votre propre imaginaire pour passer par franchir d'autres étapes.
Oui, l'imaginaire. Vocabulaire, faut déjà, quand vous avez un AVC, il faut déjà réapprendre à parler.
Oui.
Donc le vocabulaire, c'est un peu plus difficile. Maintenant, c'est revenu, mais...
Quand je parle de vocabulaire, je parle du vocabulaire graphique.
Oui, d'accord. Oui.
Je parle du vocabulaire graphique, c'est-à-dire que...
Le vocabulaire graphique, oui, forcément, va évoluer. Vous changez de main, il y a des choses dans lesquelles j'étais relativement à l'aise avec ma main gauche. Bon, il m'a fallu du temps pour les retrouver avec la main droite. Et par contre, j'étais moins à l'aise avec un pinceau de la main gauche. Et maintenant, de la main droite, le pinceau est devenu un outil plutôt familier. Donc, il y a forcément un vocabulaire graphique à retrouver. Il est différent. C'est la rapidité aussi qui change, la vitesse à laquelle vous faites quelque chose. Là, forcément, c'est un peu plus lent.
Mm-hmm. Eh bien, écoutez, tous les trois, moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment dans les studios, dans le studio de Radio G. J'ai passé un super moment avec vous. Belle découverte ou belle redécouverte, en tout cas plaisir de converser avec vous. Comme on est le 1er janvier, je vous souhaite...
C'est une belle année aux auditeurs, oui, tout à fait.
Voilà, on va souhaiter...
Et
aux lecteurs. Moi, je me contente généralement de souhaiter une année. Vu l'année, comment l'année précédente
exactement
s'est passée, on va dire qu'on va déjà souhaiter qu'il y ait une année, ça sera déjà pas mal, en espérant qu'on entre dans un monde un peu plus paisible, apaisé, plus respectueux.
Mais lui, vous n'imaginez pas la difficulté que nous avons, nous, en tant qu'illustrateurs, de faire des cartes de vœux chaque année, en souhaitant le meilleur. Je vous jure, ça devient compliqué.
Je vais dire, je compatis.
Les jeunes auteurs sont favorisés. Et quand vous avez 60 ans, ça devient difficile.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie d'être venu jusque dans les studios. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci,
au revoir. Au revoir. Il me faut maintenant rendre les clés du studio. Encore un grand merci à M. Le Rouge, Gérard Berthelot et Éric Jussézac pour être venus me rendre visite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2025. Au cours de l'émission, vous avez entendu The Loire Valley Calypso qui ont chanté Salvador avec Bia Letica, John O'Jone qui a chanté La Femme Oiseau. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 15 janvier à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.